Orange, cyber défense.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. It's now.
Cette séance d'information sur le renseignement est présentée par le Cyber Intelligence Bureau, une division de l'Orange Cyber Défense Épidémiologie Laboratory. Leur approche combine des techniques OSINT et des preuves HUMINT, telles que les enquêtes sur les activités cybernétiques, incluant l'analyse émotionnelle, intellectuelle, cognitive et géopolitique des influences des cybermenaces.
Bonjour à tous.
Que se passe-t-il quand un groupe de cybercriminels de très haut niveau parvient à pirater l'un des systèmes les plus critiques d'une nation, obtient un accès total et furtif aux infrastructures et décide de ne absolument rien faire?
C'est la grande question.
Aujourd'hui, on décortique une anomalie tactique absolue. Au centre de notre analyse, il y a un document franchement inouï. C'est le manifeste d'un groupe activiste pro-russe qui se fait appeler Unit 21.
Un collectif qui en fait affirme refuser l'argent, rejeter la gloire, et qui utilise le silence absolu comme une arme de destruction psychologique.
C'est ça. Mais juste avant de plonger vraiment au cœur de cette architecture de la menace, il y a une précision vitale et non négociable à faire pour ceux qui nous écoutent.
Tout à fait, le point sur la neutralité.
Exactement. Ce document contient des déclarations géopolitiques extrêmement radicales, avec des accusations très virulentes qui visent spécifiquement l'Occident. Il est fondamental pour notre audience de comprendre que notre examen de ce texte, il n'endosse, n'approuve, ni ne valide en aucun cas ses opinions ou ses idéologies.
Notre démarche est strictement analytique.
Et rigoureusement objective.
Voilà, on observe la mécanique psychologique et cognitive déployée par le groupe, mais on n'évalue à aucun moment le bien-fondé de leurs revendications politiques. Et je dirais que cette mécanique mérite vraiment une analyse exhaustive. Parce que le simple fait de pouvoir étudier un tel texte, c'est une aberration dans le paysage des menaces actuelles.
Une aberration? Dans quel sens?
Si on regarde l'écosystème activiste aujourd'hui, il y a une constante, le bruit. C'est un milieu structurellement régi par l'impulsivité, le besoin viscéral de reconnaissance.
Ouais, le besoin de faire les gros titres, quoi.
Exactement. Le cycle est hyper prévisible. Une cible est compromise, une capture d'écran est immédiatement postée sur des forums obscurs avec un message rudimentaire, et puis le groupe essaye de capitaliser dessus ou disparaît.
La temporalité, c'est toujours l'immédiateté. C'est la culture de la gratification instantanée appliquée au piratage. Le fameux hit and run.
C'est exactement ça. Or, avec Unité 21, on est face à l'exact opposé. Ce groupe a pris le temps de rédiger, de structurer et de publier une doctrine complexe, détaillée, presque philosophique.
Ah ouais, c'est pas juste un post sur un forum.
Ah non, pas du tout. Ça expose sans ambiguïté leur vision du monde, leur méthodologie, leurs objectifs à long terme. Et ça, c'est un événement rarissime. On n'est plus du tout face à une revendication classique.
On a entre les mains un vrai manuel opératoire de guerre psychologique, en fait.
C'est le mot. Et pour anticiper ça, il faut impérativement déconstruire l'identité qu'ils revendiquent. Dès le départ, le document rejette les motivations habituelles du crime numérique.
Et il y a cette phrase, cette déclaration martelée dans le texte. « Nous ne piratons pas pour l'argent, nous ne piratons pas pour la gloire, nous piratons pour la Russie. »
Voilà, cette simple affirmation, elle redéfinit entièrement la grille d'analyse du risque. Pour mesurer la profondeur de ça, c'est très pertinent de convoquer le modèle du quotient émotionnel, le fameux EQI de Reuven Baron.
Le psychologue des années 90, c'est ça?
Ouais, la fin des années 90. Son modèle est fascinant parce qu'il ne se limite pas à percevoir les émotions. Baron intègre des dimensions comme la responsabilité sociale.
D'accord.
Et aussi la façon dont un individu parvient à l'auto-actualisation, c'est-à-dire comment il s'accomplit et trouve un sens profond à sa vie.
Mais attendez, il y a un paradoxe frappant là, non? Comment la psychologie clinique peut utiliser des mots comme responsabilité sociale pour qualifier un groupe dont le but, c'est le sabotage et la destruction?
C'est une excellente remarque. Mais en fait, la définition de la responsabilité sociale n'est pas universelle, elle est malléable.
Ah, je vois, c'est une question de point de vue.
Exactement. Le paradoxe n'existe que depuis notre propre référentiel moral. Dans leur architecture mentale, la notion de contribution à la communauté a été entièrement fusionnée avec l'appareil d'État.
Donc le sacrifice pour l'État devient l'accomplissement personnel.
Voilà. L'auto-actualisation, selon Baron, exige d'eux une abnégation totale. L'acte de piratage est purgé de sa dimension égoïste ou criminelle. Il est transmuté en acte de dévotion.
L'ego du pirate est effacé, quoi.
C'est ça, au profit exclusif de la mission nationale.
Du coup, si on essaye de visualiser ça sur le terrain, on pourrait dire que c'est fondamentalement le même écart qu'il y a entre affronter un groupe de mercenaires et affronter des fanatiques.
C'est une très bonne analogie.
Le mercenaire fait une analyse de rentabilité. Si les défenses prennent trop de temps à percer ou si le risque est trop grand par rapport à l'argent, il recule, rationnellement.
Absolument. La dissuasion classique repose là-dessus, augmenter le coût de l'attaque. Mais le fanatique numérique, il opère selon une logique totalement asymétrique.
Puisqu'il s'en fout de l'argent et de la gloire.
Exactement. Il n'a pas de seuil de rentabilité défini. Le risque d'être détecté, de perdre des outils sophistiqués, ça vient juste d'une composante acceptée de l'équation. C'est inhérent au sacrifice.
Ce qui annule purement et simplement nos défenses actuelles, en fait. Nos architectures de cybersécurité sont conçues pour décourager des acteurs rationnels.
C'est le grand danger. Face à un tel absolu idéologique, la logique mathématique de la dissuasion s'effondre. Et cette dévotion altère un autre facteur critique, le rapport au temps.
Ah oui, le temps. Échappant à la pression de devoir rentabiliser l'accès tout de suite, ils ont cette ressource inestimable. Ce fameux état dormant qu'ils revendiquent.
Oui, le manifeste affirme qu'ils maintiennent une présence silencieuse dans certaines infrastructures depuis 2023.
Leurs mots sont glaçants d'ailleurs. Construire, tester, attendre.
C'est terrifiant d'un point de vue stratégique.
Mais soyons un peu critiques, est-ce qu'on risque pas de leur attribuer une virtuosité technique qu'ils n'ont pas ? N'importe qui peut écrire « on vous observe depuis des années » juste pour créer de la paranoïa. C'est peut-être juste un énorme coup de bluff.
C'est une objection tout à fait valide. La désinformation, c'est une part non négligeable de leur arsenal. Mais, en analysant la rigueur du document, l'hypothèse d'une réelle capacité de latence est statistiquement inquiétante.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui prouve qu'ils en sont capables ?
Si on se réfère aux travaux de John Mayer et Peter Salovey sur l'intelligence émotionnelle, l'un des piliers est la régulation exécutive.
C'est-à-dire la capacité à contrôler ses impulsions.
Précisément. Dans la culture numérique, l'adrénaline de l'intrusion pousse presque toujours à l'action immédiate.
Ouais. On a envie de tout casser tout de suite.
Voilà. Réussir à infiltrer un réseau sensible, obtenir les privilèges et à ce moment précis, choisir consciemment de suspendre toute activité pendant des mois, ça demande une discipline interne exceptionnelle.
Une maîtrise absolue de la gratification différée, en somme.
C'est ça. Ça démontre une maturité organisationnelle qui exclut l'hypothèse de l'amateurisme.
Et même si c'était en partie vrai, l'annonce elle-même modifie la réalité. Le silence n'est plus vu comme une absence de menace, mais comme une présence indétectable.
C'est le cœur de la manœuvre. En annonçant cette latence, il pulvérise la confiance qu'une organisation a dans sa propre histoire numérique.
Ah oui, imaginez les équipes de défense. Elles réalisent que leurs audits, leurs réunions confidentielles des derniers mois se sont peut-être passées sous le regard de l'adversaire.
Le choc dépasse largement la simple faille technique. Ça instaure un sentiment de vulnérabilité omnisciente.
Et cette infiltration silencieuse en interne, elle se reflète dans la manière dont ils conçoivent l'attaque externe. Le manifeste passe clairement des systèmes informatiques aux systèmes géopolitiques.
Tout à fait. Il s'attaque à l'architecture des alliances internationaux.
Il y a cette phrase « Vos alliés sont des fardeaux ». Ils dénoncent ce qu'ils appellent le commerce du sang de l'Occident. Il y a une vraie volonté d'ingénierie de la division.
Exact. Et l'analyse comportementale nous aide encore ici. Les travaux de Daniel Goleman sur la conscience sociale et la gestion des relations sont très éclairants.
La conscience sociale, c'est percevoir l'humeur d'un groupe.
C'est ça. Percevoir les dynamiques de pouvoir invisibles pour interagir avec empathie normalement. Mais Unit 21 militarise cette intelligence émotionnelle.
C'est machiavélique, du coup.
Fondamentalement machiavélique. Déployé à l'échelle des relations entre les États.
C'est comme s'ils essayaient de détruire une alliance diplomatique avec un bélier numérique colossal.
L'intention y est, mais pas la méthode. Un bélier, c'est de la force brute. C'est hyper visible, donc on peut le contrer. Leur stratégie est beaucoup plus pernicieuse. Ça ressemble beaucoup plus au comportement de l'eau.
De l'eau. Vous voulez dire que l'eau contourne l'obstacle au lieu de le frapper ?
Pas seulement. L'eau s'infiltre. Aucune coalition n'est un bloc monolithique parfait. Il y a toujours des lignes de faille.
Des tensions sur l'énergie, des asymétries de financement, des ressentiments historiques.
Voilà, leur intelligence machiavélique consiste à cartographier ces interstices. L'eau s'installe silencieusement dans ces micro-fissures,
Puis, au moment optimal, en injectant une des informations ou en coupant une chaîne logistique, il provoque un gel.
Et l'eau se dilate et fait éclater la structure de l'intérieur. Ah, c'est la guerre asymétrique parfaite.
Exactement.
Et pourtant, cette stratégie très subtile contraste avec ce qu'ils disent sur les populations civiles, parce qu'ils ne ciblent pas que les ministères ou la diplomatie.
Non, en effet. Le passage le plus viscéral vise la psyché du citoyen.
Je cite.
« La peur est préférable à la mort. La peur vous pousse à remettre en question vos dirigeants. »
C'est le point de bascule cognitif du texte.
Ça confirme que le but n'est pas de détruire des machines pour détruire des machines. Le but ultime, c'est l'effondrement cognitif de toute une société.
Rien que ça ?
Rien que ça. Au niveau neurobiologique, l'amygdale joue le rôle de système d'alarme archaïque face à la menace. Si on plonge une population dans une incertitude constante sur ses besoins fondamentaux, cette amygdale est violemment surstimulée.
Et quand cette alarme biologique hurle en permanence, le cerveau n'arrive plus à traiter les infos avec recul.
Littéralement. C'est ce que Daniel Goleman appelle le piratage émotionnel. Les voies rapides de la peur court-circuitent le cortex préfrontal.
Le centre de la pensée rationnelle.
Exactement. Celui qui permet d'évaluer les risques et d'accorder sa confiance à un système social. En ciblant les infrastructures du quotidien, Unit 21 veut annuler cette pensée rationnelle. La population bascule en mode survie.
Et la conséquence directe, c'est la rupture brutale du contrat social. Si l'État garantit plus l'énergie ou les hôpitaux, sa légitimité s'évapore direct.
C'est exactement l'objectif.
Mais est-ce qu'on sous-estime pas un peu la résilience des populations ? L'histoire est pleine de sociétés qui ont traversé des guerres physiques sans s'effondrer psychologiquement. Est-ce qu'une cyberattaque, avec des lignes de code, peut vraiment générer autant de terreur ?
C'est une question cruciale. Mais comparer ça à un conflit armé, c'est trompeur. La résilience humaine se structure face à une menace visible et localisée.
Un ennemi qu'on peut pointer du doigt.
Voilà. La dangerosité d'une cyberattaque systémique, c'est son invisibilité. Quand le citoyen voit le réseau électrique tomber, les paiements refusés, les urgences bloquées en même temps, la menace semble venir de partout sans avoir de visage.
C'est la privation de tous les repères de la modernité.
Par un fantôme numérique, oui. Ça génère une angoisse existentielle bien pire que la perte temporaire d'un seul service.
Ça amène à une conclusion assez vertigineuse. Leur framework de piratage, leur ligne de code, c'est pas la véritable arme, en fait.
Non, c'est juste le vecteur logistique.
Le vrai virus, c'est la charge émotionnelle conçue pour infecter la cognition collective.
C'est la synthèse exacte. La mutation est achevée. Et c'est en croisant cette volonté d'effondrement avec leur repérage géopolitique qu'on peut formuler une hypothèse très sérieuse sur leur cible en Europe.
Justement, rassemblons tout ça. Leur patience, leur refus de l'argent, la division des alliés, le piratage émotionnel. Que nous disent les sources sur l'application concrète sur le terrain ?
En s'appuyant strictement sur le manifeste, on voit qu'ils ciblent des nœuds critiques. La logistique militaire, les réseaux financiers systémiques, les liaisons satellites et les infrastructures médicales d'urgence.
Des secteurs vitaux, donc.
Oui. Et leur sémantique sur le commerce du sang est directement rattachée au Royaume-Uni et à ses partenaires occidentaux immédiats.
D'accord.
En synthétisant tout ça, l'hypothèse stratégique dessine un scénario d'une redoutable sévérité.
Quel serait le mécanisme de l'attaque alors ?
L'hypothèse la plus forte écarte le simple vol de données. L'objectif sera la paralysie systémique et simultanée, frappant prioritairement le Royaume-Uni et ses alliés logistiques.
Simultané, genre tout en même temps ?
À l'instant T. Les chaînes d'approvisionnement s'interrompent, les communications des hôpitaux perdent leur routage, les réseaux de paiement sont gelés.
Un blackout sociétal total, quoi. Pas juste un rançongiciel, mais une démonstration de force absolue.
C'est le dessin maximaliste. Ça validerait irréfutablement leur idéologie. Prouver que les sanctions occidentales sont des illusions si la nation ne peut plus assurer la survie basique de ses citoyens.
Ça matérialiserait le piratage émotionnel à l'échelle d'un pays. La panique supplanterait la résilience de l'État.
Et la subversion cognitive serait accomplie.
C'est une perspective qui donne le vertige, vraiment. Et ça nous oblige à reconsidérer nos défenses. Depuis des décennies, on met des moyens fous dans des pare-feux, de la détection d'intrusion, du chiffrement.
Pour sanctuariser les serveurs, oui.
Mais si cette doctrine est correcte, si la cyberguerre a muté pour viser la cognition humaine et le lien social, alors notre ultime vulnérabilité, c'est plus le serveur.
C'est la psychologie de nos sociétés.
Exactement. La question, c'est plus de savoir si on peut patcher un système à temps, c'est de savoir si nos sociétés ont la résilience psychologique pour empêcher que leur code moral et social soit réécrit par l'algorithme de la peur.
Un changement de paradigme fondamental qui va redéfinir la sécurité pour la décennie à venir, j'en suis certain.
C'est sur cette réflexion essentielle que se termine notre exploration de ce document singulier.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. We'll be talking about it on this channel very soon.
Orange, cyberdéfense.